Bien, vu qu'on a juste une heure pour cette table ronde, donc on va essayer d'être assez direct dans nos propos, de façon à avoir aussi le temps d'un échange à la fin de notre table ronde. Donc le thème de cette table ronde, l'après-midi, l'intitulé de notre après-midi, compétences croisées en bibliothèque et nouvelles compétences, avec deux parties, une plus sur les partenariats, donc là tout de suite bibliothèque et partenaire, ça va être vraiment ça qui va nous occuper pendant une heure, et ensuite les nouvelles compétences, et là je vais passer la main à Dominique Rouet pour cette deuxième partie. Pour nous présenter, en tout cas pour illustrer cette thématique des partenariats, nous écouterons d'abord Frédéric Blanc-Aubert, qui est responsable du service médiation culturelle et chargé d'une mission livre au Havre, et qui nous parlera de cette expérience des relais lectures, qui sont vraiment une des caractéristiques, on en a parlé un petit peu ce matin, de la politique de lecture publique ici au Havre. En deuxième partie, accompagnement des déficients visuels à la bibliothèque de Saint-Lô, avec Pascale Navet, qui est directrice de la bibliothèque de Saint-Lô, et puis Martine Tillard, qui a bien vu nous rejoindre, qui est bénévole au sein de l'association Aide à l'adaptation et à l'inclusion d'enfants déficients visuels, c'est bien ça. Donc ça, c'est donc un partenariat entre la bibliothèque et l'association qui a porté vraiment des fruits. Et puis, en troisième partie, les permanences d'écrivains publics à la BPI, en partenariat avec l'association Mots sur Mesure, avec Mathilde Servet, qui est chef du service Savoir Pratique à la BPI, qu'on connaît bien, qui a beaucoup contribué à la réflexion sur cette bibliothèque troisième lieu. Et puis, avec nous également, donc Lynn Cogna Bertrand, qui représente l'association Mots sur Mesure, qui a été donc associée à la BPI dans la mise en place de ces permanences d'écrivains publics. Alors, je ne vais pas faire une introduction trop longue, simplement dire que là, on est vraiment au cœur de la problématique de les bibliothèques dans la cité, dans la bibliothèque, dans les réseaux de la cité, ces partenariats qui ouvrent la bibliothèque sur d'autres usages, sur d'autres usagers, qui permettent d'aller vers d'autres publics, des publics éloignés ou pas, des non-usagers, enfin tout ce dont on a pu parler ce matin, c'est vraiment notre thématique aujourd'hui. Maintenant, je crois qu'on est bien dans le sujet, donc je vais donner tout de suite la parole à Frédéric Blanc-Aubert pour un petit quart d'heure d'intervention pour nous présenter donc les relais lecture.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais préparer évidemment une intervention très structurée et je ne vais pas du tout en tenir compte en fonction de ce qui s'est dit ce matin. Je vais d'abord revenir sur mon parcours parce que ça illustre bien la table ronde. Compétences croisées, nouvelles compétences. J'ai 45 ans. Je travaille au niveau du territoire havrais depuis une vingtaine d'années. Et en fait, je suis diplômé, j'ai un diplôme supérieur en animation et conduite de projet. J'ai passé ma formation à l'IDS il y a plus de 20 ans. L'IDS, c'est l'Institut de développement social à Conclieu, du côté de Rouen. Et puis, j'ai travaillé effectivement à diriger un centre culturel dans l'agglo de Rouen. Et puis après, j'ai travaillé dans un service culturel dans une petite commune autour de la ville du Havre. Et j'ai travaillé ensuite dans le milieu associatif pour le compte de la ville du Havre, toujours dans le développement social et les projets sociaux de quartier. La question de la lecture, de la promotion du livre m'a toujours intéressé. Quand j'ai passé mon diplôme, j'ai fait un mémoire à l'époque sur la ville de Montivier qui portait déjà sur la promotion du livre. Et mon parcours faisant, travaillant de plus en plus avec des animateurs sur le terrain autour de projets éducatifs, projets sociaux, la question du livre a toujours été intégrée d'emblée. Parce que c'est une question qui est liée foncièrement à l'éducation, foncièrement à la sociabilité de l'enfant, du jeune enfant et de sa construction, la construction de son identité dans le temps. Et quand il m'a été donné l'occasion effectivement de travailler sur le plan Lire-au-Havre et donc au sein des bibliothèques municipales, j'en ai saisi l'occasion parce que c'était pour moi vraiment l'opportunité de boucler une boucle et de revenir sur mon sujet de prédilection, le livre. Et ça a été plutôt enrichissant. Et cette démarche, on va la retrouver effectivement au niveau des relais lecture. Alors, les relais lecture ne sont pas venus comme ça par hasard à l'échelle de la ville du Havre. On avait fait une étude en 2010 sur le réseau pour montrer effectivement quel était notre retard et notre décalage pour une grande ville de France comme la nôtre. Et effectivement, quand on comparait le réseau par rapport au nombre de mètres carrés et d'habitants, on était largement de ça. Alors, l'un des premiers axes de Lire-au-Havre, c'est effectivement de remettre à niveau le réseau, de revenir sur un maillage territorial équilibré, nuancé, avec des équipements à vocation multiple. Alors, on a évidemment le réseau des bibliothèques tel qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, et puis, pour certains d'entre vous qui seront là encore en fin d'après-midi, cette nouvelle bibliothèque Niemeyer, qui va être un peu le fleuron, l'emblème, notre vaisseau amiral pour conduire la nouvelle politique Lire-au-Havre. Alors, ce maillage s'est fait dans le temps, notamment avec les relais lecture, il nous fallait absolument des compléments pour pouvoir irriguer la présence du livre dans tous les quartiers de la ville. C'était un travail de longue haleine parce que les relais lecture en tant que tels ont été développés de 2012 à 2014. Le plan Lirois avait été lancé en 2012, mais vous imaginez bien qu'avant le lancement et la mise en œuvre de ces relais lecture, il a fallu effectivement un petit temps de cogitation, d'ingénierie de projet, de préparation budgétaire, de levée de fonds, etc., etc. Ce travail préalable nous a pris plus de 2 ans. Alors, au-delà de la dimension administrative, financière, ce qui était intéressant, c'est que j'étais à l'époque dans une direction qui s'appelait la vie des quartiers, qui gérait à la fois tous les équipements de proximité comme l'état civil, les mairies annexes, et puis de l'autre côté, les centres de loisirs et les maisons de l'enfance. Et à l'époque, on s'est rapproché parce qu'on a saisi effectivement tout l'intérêt de s'appuyer sur ce réseau des quartiers pour venir en complément du réseau des bibliothèques. Alors ce travail a été très pointu parce qu'il a fallu repérer des endroits potentiels, mais pas n'importe quoi et pas n'importe où. Déjà, il y avait un maillage, un équilibrage territorial, géographique à faire au niveau des nombreux quartiers de la ville. Ensuite, quand on avait repéré un endroit, il fallait que cet endroit soit absolument un lieu de vie sociale dans lequel tous les publics avaient accès. Et c'est comme ça, évidemment, que l'on a repéré ce qu'on appelle ici au Havre des salles d'animation municipales, qui sont des équipements sociaux à vocation multiple, qui... déjà enchaîné sur un premier slide. Ces salles d'animation municipale, donc une vocation multiple, effectivement, s'adressent au grand public. Elles accueillaient encore à l'époque des centres de loisirs, des permanences CAF, des points information jeunesse, et également différentes associations locales qui œuvraient effectivement dans le développement social, l'insertion sociale, l'insertion économique. On avait besoin de s'appuyer impérativement sur ces lieux de vie pour faire que le livre soit vraiment à la croisée de publics qui ne venaient pas naturellement en bibliothèque. Alors, un relais lecture, c'est extrêmement simple dans son concept. C'est une petite unité de lecture publique qu'on a jaugée au départ de 50 mètres carrés minimum. On ne pouvait pas descendre en dessous parce qu'effectivement, en dessous de 50 mètres carrés, c'est très petit, on ne peut pas y faire grand-chose, on ne peut pas s'exprimer. Alors, ça contient en général 2 à 3 000 documents. On a systématiquement au moins un point d'accès Internet qui est relié à notre portail, à toute l'offre dématérialisée des bibliothèques, et puis de nombreux espaces de consultation. Le premier que vous voyez à l'écran, c'est le prototype lancé en tout début 2012, la SAM municipale du quartier de Massillon, qui est dans le quartier de la gare, un petit peu plus loin. Et là, on a commencé un petit peu à essuyer les plâtres, évidemment. Parce que entre la démarche initiale qu'on avait repérée, les animateurs ont participé à la conception du projet. De l'autre côté, nous avons commencé à nous structurer. Et en nous structurant, nous avons très rapidement pris conscience qu'il nous fallait une ressource spécialisée pour l'interne au niveau des bibliothèques pour accompagner ce projet. Puisque dans les 2 ans qui suivaient, on en a développé 7. L'objectif a été atteint. Au jour d'aujourd'hui, les 7 relais lecture sont en plein fonctionnement. Et donc on a recruté effectivement 2 nouveaux collaborateurs qui sont en charge directement des collections en lien avec les animateurs qui, eux, gèrent la partie effectivement fonctionnelle sur chacune des unités. Alors ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que les équipes ont été associées en amont du projet pour repérer au sein de leurs locaux quel était le meilleur endroit pour pouvoir accueillir ce relais lecture avec une visibilité quasi immédiate. Des locaux s'y prêtaient, d'autres moins. Sur celui-ci, on a quasiment rasé une partie du bâtiment intérieurement pour pouvoir tout reconstruire. Je vais enchaîner tout de suite sur la photo d'après. Le relais lecture de Sanvic est un autre exemple où là, cet équipement-là n'est pas tout à fait une SAM, c'est une maison des associations. Où dedans, effectivement, on peut avoir des associations de gym, on peut avoir des associations de retraités, des permanences du CCAS. Là, le relais lecture, c'est pareil, prend toute sa mesure puisque les animateurs sont en lien avec tous les publics, quels qu'ils soient, et permettent effectivement d'aller chercher sur des animations ou certaines nouveautés documentaires des publics que l'on a du mal à accrocher. Le public des relais lecture est un public de grande proximité, quasi immédiate. C'est vraiment de la toute proximité. D'où la philosophie qui se cache derrière, le relais lecture, ça se passe près de chez vous, évidemment. On est en train de mailler de plus en plus précisément notre collaboration avec nos collègues. On a mis de façon assez récente une coordination entre nos collègues animateurs et nous-mêmes, coordination mensuelle qui sert effectivement à débriefer sur le fonctionnement du relais lecture de chacun d'entre eux, du renouvellement des collections, bien entendu. Alors, l'accompagnement ne s'est pas arrêté à cette collaboration autour de la conception. Ça va bien plus loin que ça. Les collections tournent régulièrement, tous les 6 mois, tous les 8 mois, en fonction effectivement de la rotation et des demandes des publics. On y intègre évidemment beaucoup de nouveautés. Et pour nos animateurs, c'est effectivement l'occasion de développer des activités qu'ils faisaient déjà précédemment, mais cette fois sous un angle différent, en jouant énormément sur la convivialité. Quand on est arrivé avec notre approche, au début, il a fallu beaucoup convaincre, parce que ce n'était pas évident pour des animateurs, effectivement, de s'inscrire dans une démarche de valorisation d'un fonds documentaire. Donc pour ce faire, nous avons réalisé effectivement des formations de plusieurs journées, déjà pour les former au SIGB, tout simplement, parce qu'il y avait besoin d'avoir ce logiciel de gestion, et puis ensuite de commencer à travailler avec eux certaines petites capsules, des petites interventions comme ça, pour leur permettre de réaliser que le livre n'était pas si éloigné que ça de leur propre pratique et de leur propre enjeu. Les choses avancent, tout n'est pas complètement satisfaisant au jour d'aujourd'hui, mais l'essentiel au jour d'aujourd'hui dans les relectures, c'est qu'on travaille autrement, mais surtout on travaille autrement, mais ensemble. Et c'est ça qui fait la grande force de ce réseau, qui est complètement intégré au réseau des bibliothèques au Havre, c'est qu'on arrive au jour d'aujourd'hui à faire des petites choses. Ce matin, l'intervention effectivement sur Saint-Aubin est un peu, en quelque sorte, pour nous, le prémisse de ce qui peut se faire au Havre et ce que l'on a l'intention de faire. Donc il faut qu'on accroît effectivement notre présence dans les relectures en collaborant encore plus avant avec nos animateurs. Les idées sont nombreuses. La convivialité, je le disais, est importante. Et quand on a été sur un centre social, le premier d'entre eux, qui était dans le quartier de Cocrieville, qui est sur la ville haute, un quartier de 10 000 habitants, le centre social, en fait, venait d'être municipalisé, tout simplement. Et pour l'équipe associative, il n'était pas simple, déjà, d'intégrer les services municipaux, mais il était encore moins simple d'intégrer la question du livre. Et donc, en plus, ce projet-là s'est accompagné d'un déménagement physique du centre social. Le centre social était dans un pied d'immeuble. Et par la municipalisation, on l'a relocalisé directement dans une ancienne école qui n'était plus en fonction depuis un certain nombre d'années. Et donc, à ce moment-là, c'était l'occasion de réinterpeller le dimensionnement même du relais lecture, en y intégrant cette fois, on a en fait occupé la quasi-totalité du préau qui fait plus de 300 mètres carrés. On a coupé cette salle en deux, où dans la première partie, sur à peu près 110 mètres carrés, on a un relais lecture qui se déploie avec ses collections et ses différents services. Et puis dans la deuxième partie, avec un mur mobile, on a une salle polyvalente dans laquelle on peut faire un tas d'animations et notamment accueillir du public. Alors, soit de façon constituée, des scolaires notamment, des personnes âgées, des jeunes, mais pas uniquement. Et puis l'idée est venue, en grattant l'affaire avec le directeur social, de se dire, mais si convivialité il y a, où est l'enjeu? Alors évidemment, il y a le livre, il y a la presse qui est extrêmement appréciée par ce public de proximité. Et bien on a décidé d'y implanter un bar, tout simplement. C'est une idée toute bête. Et ce bar, au jour d'aujourd'hui, est devenu le point névralgique de ce relais lecture-là, parce que c'est le centre de... Alors évidemment, on a derrière ce bar toute la logistique qu'on connaît en bibliothèque, hein, évidemment, le flash, les gencodes, etc., la douchette. Mais il y a l'expresso, il y a le thé, il y a les petits gâteaux. Et c'est ce qui permet d'ajouter un supplément d'âme, entre autres, à ce service aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, on a encore beaucoup de projets, beaucoup de perspectives. On se rend compte au jour d'aujourd'hui qu'on a encore besoin de collaborer, d'approfondir la collaboration et la connaissance. On a commencé à effleurer la question ce matin, en fin de matinée, de dire, mais au niveau des bibliothécaires, jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'il y a une limite? Mais les animateurs se posent exactement la même question. Jusqu'où eux peuvent-ils aller? Et quand on discute avec eux, c'est une question pas simple. Pas simple parce que sur certaines actions, on est totalement complémentaires, on joue sur cette complémentarité, et à l'inverse, sur d'autres actions, quand les choses ne sont pas clarifiées en amont de l'action, il peut y avoir des fois des petits dérapages qu'on est obligé de rattraper. Mais c'est quand même à la marge. Donc l'essentiel, effectivement, dans la collaboration, c'est que d'emblée, les choses soient posées, clairement définies entre les missions des uns et les missions des autres. Alors, ce qu'on ne doute pas, c'est que les relais lectures vont monter davantage encore en puissance, amener des publics, et notamment avec l'arrivée de Niemeyer, puisque ce bâtiment va être livré d'ici la fin d'année, courant d'automne, et que les relais lectures vont faire partie d'un de nos moyens de promotion pour amener effectivement le public des quartiers et différentes communautés du Havre dans le bâtiment central avec une offre de services évidemment incomparable à celle des relais lecture. Donc les relais lecture jouent de ce double mouvement, la promotion du livre, de la lecture et de l'écrit dans son quartier auprès des habitants, des voisins, mais également est intégré dans le réseau pour pouvoir irradier le réseau et contribuer à l'animation du réseau. Voilà, je ne sais pas si moi c'est encore un petit peu de temps. J'ai mis mon chrono moi-même.
Deux minutes.
Ce que je pourrais ajouter, on a plusieurs idées autour des relais lecture. Et en fait, notre politique au jour d'aujourd'hui comporte de nombreux dispositifs dans le cadre de l'Hérault Havre. Les relais lecture est un espace effectivement de dialogue, un carrefour d'échange, déjà entre professionnels, ensuite entre habitants. Mais c'est surtout l'endroit au jour d'aujourd'hui, je dirais, où ça infuse, et où ça infuse énormément. Alors, les bibliothèques de quartier sont reliées directement, évidemment, aux relais lecture du quartier. Les collaborations sont enclenchées et ancrées déjà depuis longtemps, mais elles doivent se renforcer impérativement. Impérativement parce que sur de nombreuses actions, les relais lecture sont encore un petit peu en retrait. On a de nombreux dispositifs, comme je l'évoquais là, effectivement, en introduction, vous voyez, dans le cadre de la bibliothèque de la Cité, on a plusieurs opérations, les livres nomades, etc. Et les relais lecture sont encore un petit peu détachés. Ce qu'il convient de faire pour nous demain, c'est d'accentuer l'ensemble de nos dispositifs via les relais lecture. Pour les bibliothèques, c'est complètement intégré. Pour les relais lecture, ça ne l'est moins. Et tout l'enjeu, effectivement, va être encore d'accompagner les animateurs avec beaucoup de pédagogie pour faire qu'ils arrivent à y voir clair dans ce qu'on attend d'eux. Parce qu'en fait, ils ont une double mission. Aujourd'hui, ils ont la mission qui leur incombe premièrement en tant qu'animateurs de la ville, c'est-à-dire de transcrire de façon opérationnelle et pour les habitants le projet social Vivre Ensemble. Ça, c'est leur mission principale. Et puis, ils ont une deuxième mission qui est effectivement de contribuer très largement à la promotion du livre et donc à l'Hérault Havre. Et là, on a des connexions à faire entre ces deux projets qui sont à la croisée des chemins. Et ce qui va nous réunir autour d'un même sujet, ça va être effectivement toutes ces actions de cohésion sociale et donc de vivre ensemble. Voilà.
On va prendre le temps d'une ou deux questions. Peut-être. Moi, je me demandais, mais vous parlez d'un retour vers les établissements, vers les bibliothèques. Est-ce que vous l'avez évalué un peu? Est-ce qu'on a une idée quand même du retour qu'il peut y avoir sur la bibliothèque centrale ou sur les annexes?
Alors, c'est plutôt sur les annexes, effectivement, puisque l'ancrage, c'est une typologie particulièrement havraise. Au Havre, l'histoire des quartiers est très, très, très marquée. Il y a de nombreux quartiers. La ville du Havre, en fait, s'est construite dans le temps en absorbant les villes voisines. Le Havre de Grasse, à l'origine, vous le verrez, hein, pour ceux qui seront là encore tout à l'heure, c'est le quartier de Meyer, c'est le quartier Saint-François, autour des bassins, donc c'était une île, un port militaire, clairement. Et donc la ville a grandi, la ville a croît et a absorbé au fur et à mesure les communes depuis près de 500 ans. Et donc la relation, effectivement, aujourd'hui, elle se fait au niveau des relais-lectures, d'abord, premièrement, avec la structure qui l'accueille, mais aussi ensuite, dans un second temps, avec la bibliothèque, le pôle qui est juste à côté. Pour l'instant, l'échange ne se fait pas encore au niveau de la bibliothèque centrale. Et c'est normal, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On est encore un petit peu dans la genèse, puisqu'on a quand même, à marche forcée, pendant 2 ans, délivré cet équipement. Vous imaginez tous les travaux, la conception qu'il a fallu faire, tous les aménagements qu'on a discutés, négociés, pied à pied à chaque fois. Et donc, on a été vraiment dans une approche, au début, sur ces 2 premières années, une approche très structurelle. Livrer des équipements en ordre de marche et faire que ça fonctionne. Et donc, depuis 2014... Depuis l'année dernière, on est dans une approche plus sensible, de collaboration, et on l'a effectivement, on a commencé à mesurer les choses très concrètement. Très concrètement, parce que ça veut dire qu'on a de nouvelles inscriptions, on a de nouveaux emprunteurs, on a un nombre de lecteurs actifs qui est bien plus important qu'on l'avait avant au sein des quartiers, des bibliothèques de quartier. Donc voilà, les premiers indicateurs sont posés, on continue à les gratter, évidemment, mais les indicateurs sont tout à fait positifs, effectivement.
On prend le temps d'une ou deux questions, s'il y a des questions là qui vraiment sont directement liées à cette expérience au Havre. Écoutez, de toute façon, on aura le temps, on pourra revenir à la fin de notre table ronde si vous avez des questions qui vous viennent entre-temps. Non, pas de regret pour le moment. Si, une question là au milieu. Le relevez la main qu'on vous voit bien. Qu'on voit. Voilà, c'est vous.
Bonjour, je suis Flora Blanco, je coordonne un réseau de médiathèques en Bretagne, à côté de Fougères. Et donc nous, on a justement 5 médiathèques en milieu rural. Et Moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est... Enfin, on a voulu justement des équipements de proximité pour être proche des habitants. Aujourd'hui, il y a des bibliothèques qui peinent à fonctionner. Et il y a, dans le chef-lieu de canton, il y a une nouvelle médiathèque qui serait créée à terme dans un espace social et culturel commun avec un CEDAS. Et moi, mon interrogation, c'est quelles sont vos pistes, justement, pour continuer à faire vivre ces bibliothèques de quartier proches des habitants, avec en parallèle une médiathèque peut-être de réseau qui va être très attractive et qui va peut-être faire dépeupler ces structures de proximité qui sont importantes. Voilà. Quelles sont les pistes auxquelles vous avez pensé ?
Alors, en fait, il y a plusieurs réponses possibles. L'offre documentaire présente dans un rôle lecture, 2-3 000 documents, c'est très peu. C'est pour ça qu'on parle d'une offre de proximité. C'est vraiment pour les besoins courants. Quand on a conçu ces collections au tout départ, on avait orthonormé un certain nombre de collections avec un certain nombre d'ouvrages par thème, évidemment. Et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on est capable au jour d'aujourd'hui, quasiment en fonction du public, d'adapter le fonds documentaire. Donc ça, c'est un premier élément de base et qui est assez intéressant pour nous parce que le fonds documentaire est vivant, totalement vivant. Et c'est pour ça qu'on fait des rotations très régulières, tous les 6 mois, tous les 8 mois, justement parce que quand on a que 2 à 3 000 ouvrages, on peut vite en avoir fait le tour. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Ensuite, les relais lectures vont devoir s'inscrire pleinement. Ça va être une première marche pour des peu lecteurs. Et puis surtout, ce qu'on attend d'eux, c'est effectivement qu'ils partent à la conquête de publics de très grande proximité, qu'ils soient les interlocuteurs premiers de ces publics, que l'on ne connaît pas ou qu'on a du mal à aller chercher. Alors, on a des dispositifs, effectivement, hors les murs, comme beaucoup d'entre nous, où on va, à partir des bibliothèques de quartier, chercher. On va à l'extérieur, on se produit à l'extérieur, on va chercher le public. Les relectures vont contribuer à ça et contribuent déjà à ça. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faudra que l'on provoque, effectivement, avec la bibliothèque Niemeyer, qui va ouvrir des ponts à partir d'un certain nombre d'actions qu'on est en train de repérer pour favoriser, effectivement, cet échange entre les publics de quartier, les bibliothèques de quartier et les relais lectures. Il ne s'agit pas, ensuite, de... Dans ce maillage, l'enjeu n'est pas tant de circonscrire des publics dans des îlots, dans des zones, surtout pas. C'est d'offrir ce primo accès, mais c'est surtout de décloisonner les choses et d'inciter les publics à aller vers des bibliothèques et après d'aller vers le centre-ville également. Donc à chaque fois, on va accompagner ces mouvements-là par des actions ponctuelles qu'on conçoit avec les animateurs directement ou alors avec les équipes bibliothèques de quartier. Voilà.
Très bien. Merci. Le temps tourne, donc on va rester en Normandie pour aller.
Ça y est, je casse tout.
Merci. Oui, je vais m'approcher.
Mettez-vous bien devant les micros parce qu'on a du bruit dans la salle. Bien, donc on part à Saint-Lô. Donc, comme je vous le disais, pour parler de l'accompagnement des déficients visuels, donc je laisse la parole à Pascal Navet pour nous parler de ce beau partenariat.
Merci.
Je vais vous mettre bien en face. Voilà.
Merci, oh, j'ai une voix qui porte, je crois. Alors, moi, je vais vous présenter un projet très concret et très spécifique, mais qui, me semble-t-il, est assez représentatif des projets qu'on essaye de tisser avec les associations et des liens que, depuis plusieurs années, on crée sur le territoire. En fait, c'est un projet effectivement d'accompagnement des déficients visuels, mais qui se décline sous trois grandes entités. Merci. Merci. Trois grandes entités. On est parti d'un projet autour de la lecture à voix haute qui aboutit, même si le projet dure toujours, sur un projet d'enregistrement sonore de textes pour des déficients visuels et qui se décline récemment par la réalisation de livres tactiles pour les petits. Alors, je suis venue accompagnée de Martine. Martine, elle est, comme le disait Gilda ce matin, une super bénévole parce qu'elle est bénévole à l'association EDV, mais elle est membre de groupe de lecture à voix haute depuis des années et elle donne beaucoup de son temps aussi pour enregistrer des textes. Donc voilà, c'est la bénévole qui vraiment n'a pas peur de consacrer du temps et de l'énergie à nos projets. Alors, juste, je vais vous présenter les choses de manière chronologique et rapide. Depuis 2000, la médiathèque fédère un groupe de lecteurs à voix haute qui s'appelle les haut-parleurs. Alors, vous allez me dire aujourd'hui, des groupes de lecteurs à voix haute, ça a beaucoup fleuri. Mais en 2000, c'était encore un peu exceptionnel. Et c'est un groupe qui est assez méritant parce que c'est une vingtaine de personnes qui a toujours eu à cœur d'être formées par des professionnels, de suivre vraiment des formations avec des comédiens, mais aussi d'intervenir dans plein de lieux différents, maisons de retraite, centres sociaux, participer au projet Culture Santé, évidemment monter des lectures spectacles à la médiathèque. Et c'est un groupe qui a vraiment créé une dynamique réelle autour de nos actions. À noter, il y a toujours eu depuis l'origine dans ce groupe au moins 3 membres du personnel de la médiathèque présents. On a toujours essayé de faire avec les associations qu'on accueille à la bibliothèque. On a toujours accueilli beaucoup d'initiatives et le personnel est toujours partie prenante de manière forte dans ces initiatives. Voilà, les haut-parleurs, c'est quelque chose qui demande une mobilisation importante, mais il y a toujours au moins 3 ou 4 membres de l'équipe qui suivent les répétitions, qui suivent les formations et qui sont présents aux côtés des bénévoles. En 2006, on a signé un premier contrat vie lecture et c'est à ce moment-là que nous avons été sollicités par l'association EDDV, qui connaissait le travail des haut-parleurs et qui cherchait des donneurs de voix pour enregistrer des textes pour son public. Alors, un rapide présentation des missions de l'association EDDV. C'est une association départementale qui a pour mission d'aider les enfants malvoyants et aveugles de la Manche pour qu'ils puissent vivre une scolarisation en milieu ordinaire et à proximité de leur domicile. Alors par des transcriptions braille, par une mise à disposition de matériel spécialisé et aussi en proposant des formations pour les parents et les enfants à l'utilisation de ce matériel et au braille. Et donc le souhait du directeur de l'association était de fournir des textes en braille, c'est formidable, mais des enfants en milieu scolaire à qui on demande tout d'un coup de travailler sur Phèdre ou sur une anthologie de poésie ne disposent pas de l'ouvrage, et en braille c'est quand même extrêmement compliqué de les intéresser à ces textes. Et donc l'idée au départ était vraiment de répondre à des demandes d'enseignants pour pouvoir transcrire ces textes en livre audio. Alors ça donne des fois des défis un peu particuliers. Là, récemment, par exemple, il y a eu Britannicus ou Phèdre. Ça veut dire que tout d'un coup, il y a 10 donneurs de voix qui se mettent autour de la table et qui se mettent à enregistrer. Martine a, par exemple, enregistré une anthologie de poésie de 300 pages.
Oui. 1500 pages de George Frobisher.
Voilà, donc c'est vraiment des défis importants et un vrai temps qui est... Alors, le premier défi, donc on a recruté des donneurs de voix dans l'association Les Haut-Parleurs, mais également un peu dans d'autres lecteurs de la bibliothèque. Et le premier défi a été de les former à l'enregistrement, parce que ça n'a l'air de rien. Mais il faut quand même quelques prérequis informatiques. Il faut être capable d'utiliser le logiciel Audacity. Autant vous dire que quand c'est des petites dames qui ont un certain âge et qui n'ont jamais approché un ordinateur, ça a été un peu compliqué. Et donc pour ça, on a mis l'espace public numérique à disposition de ces donneurs de voix tous les mardis matins, sur le temps de fermeture de la médiathèque. L'espace public numérique était à leur disposition avec une formation assurée par l'animateur multimédia. Donc tout ça c'est plutôt bien mis en place. Ça c'est un peu compliqué quand on a changé de format d'enregistrement parce que il y a un nouveau format d'enregistrement qui s'appelle le format DESI qui a émergé, qui permet vraiment de faciliter la lecture pour les non-voyants, mais qui représentait des contraintes supplémentaires pour les donneurs de voix. Donc on a à nouveau reformé nos donneurs de voix. Toujours est-il qu'on a aujourd'hui une vingtaine de donneurs de voix qui régulièrement enregistrent des textes, donc des textes prescrits par l'éducation nationale et par les enseignants, mais également des textes pour le loisir, parce que ça a été la deuxième demande d'EDDV, que finalement ces enfants, ces jeunes ados voilà, ils accompagnent les enfants jusqu'à la terminale, hein, donc qu'on puisse aussi bénéficier d'une autre offre que celle exclusivement prescrite. Peut-être Martine, tu peux dire un petit mot du temps et des contraintes liées à cet enregistrement. Oui.
Alors donc après avoir eu la formation, on est venu nous installer le logiciel Audacity
à domicile.
Et donc maintenant, eh bien, nous prenons les livres à la demande ou à la demande des professeurs ou à la demande d'enseignants ou d'étudiants. Et donc, nous, il faut qu'on fasse attention parce qu'on a quand même certaines règles à respecter pour enregistrer dans une salle un petit peu silencieuse, pas trop de bruit. Donc, on prépare déjà notre lecture, on lit déjà le livre. ensuite nous l'enregistrons, et ensuite nous le réécoutons. Et à ce moment-là, on supprime le souffle, on supprime une trop grande respiration. Comme on a eu la formation d'Audacity, on revient sur ce que l'on a écrit. On a toutes des petites manipulations à faire pour corriger. Et donc, on a aussi des marque-pages à insérer, de façon à ce que l'auditeur puisse, avec son livre audio, revenir quand il le veut, avec la nouvelle opérationnelle DESI, de façon à ce que le non-voyant, le malvoyant, puisse revenir à la page qu'il veut, voilà. Puisque ensuite, ce livre, nous l'enregistrons sous un fichier, avec un sommaire, une quatrième de couverture, chapitre par chapitre, et donc il peut à tout instant revenir là où il le veut.
Quand l'enseignant dit rendez-vous à la page 44, l'élève est capable d'aller à la page 44 et d'avoir la même information que les autres.
Voilà. Donc le plus difficile c'était de relire, de noter, de modifier, d'annuler et de mettre les marqueurs au bon endroit de façon à ce que si l'enfant veut revenir à la page 44, il ne se retrouve pas à la page 47. Voilà.
Alors, on a également proposé des formations pour ces donneurs de voix à la lecture à voix haute. Donc, eux aussi ont été pris en charge par des comédiens à plusieurs reprises pour apprendre à poser sa voix, le rythme de la lecture vivante. En 2012, on s'est lancé dans l'enregistrement du magazine d'information municipale et du programme d'animation de la médiathèque, donc, qui est disponible en audio sur le site de la ville et sur le site de la médiathèque. Aujourd'hui, il y a environ 150 livres qui ont été enregistrés et donc une vingtaine de donneurs de voix réguliers. Dernière étape de ce projet, depuis 2012, il y avait une idée qui tenait à cœur du du directeur de l'association, qui était de faire créer des livres tactiles pour les enfants, parce que ni le braille ni l'audio sont très excitants pour des petits qui voient mal et qui voudraient rentrer dans la lecture. Et donc l'idée était de créer des livres à toucher, des livres en relief, mais alors bien évidemment pas des livres comme ceux qu'on connaît du commerce où il y a des textures différentes, vraiment des livres qui doivent être une adaptation d'album pour les enfants, avec des contraintes très particulières. Il s'agit vraiment que les personnages soient identifiables, qu'on puisse suivre l'histoire. On va vous dire rapidement comment on s'y prend. Et donc, on a sollicité à ce moment-là, dans notre panel d'intervenants, que ce soit les haut-parleurs, des donneurs de voix ou des lecteurs, des petites mains un peu bricoleuses qui pourraient intervenir sur ce genre de projet. On a recruté une quinzaine de personnes et on a installé un atelier à la médiathèque pour qu'on puisse se lancer dans la fabrication de ces livres tactiles. Sur le marché aujourd'hui, il y a un fournisseur de livres tactiles adaptés pour les malvoyants que vous connaissez peut-être, c'est l'association qui s'appelle Les Doigts qui rêvent, qui fait de très très beaux livres, mais qui sont très chers. Et on est très fiers aujourd'hui parce que nos donneurs de doigts, là, pour le coup, font des livres aussi beaux que les livres qui sont réalisés par l'association Les Doigts qui rêvent. Donc on installe un atelier dans la médiathèque. Le personnel a été sollicité, le personnel de la bibliothèque jeunesse, pour choisir des histoires qui leur semblaient faciles à adapter en lien avec l'association FDV. Le personnel a été sollicité également pour récupérer des matériaux. Alors ça va des nouilles qu'on colle, à du sable sur la plage, des coquillages, de la paille, enfin tout ce qu'on peut utiliser pour réaliser ces livres-là. Et l'atelier a, pendant plusieurs mois, bien fonctionné à la médiathèque. Sous le contrôle du directeur de l'association, qui avait quand même des consignes extrêmement précises à donner, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on fait un livre pour les petits. Une consigne de base, par exemple, qui est très simple, c'est que quand il y a un personnage récurrent dans l'histoire, il faut toujours qu'il soit de la même taille sur la page d'illustration, pour que le petit qui va toucher puisse reconnaître que c'est le personnage. Avec d'autres contraintes qu'on n'avait pas soupçonnées, je me souviens qu'il raconte toujours que le premier livre tactile qu'il a mis en place, il y avait un poisson qui revenait sur une vingtaine de pages, et il avait décidé de coller des petites paillettes dorées pour le poisson. Il y avait 300 paillettes par poisson, et à la 20e page, il nous a dit « J'en suis à la 10 000e collette gommée, et je n'en peux plus ». Donc voilà, il y a comme ça un peu des pièges à éviter quand on se lance dans ce genre de fabrication. Tu nous dis un petit mot de comment...
Alors, par exemple,
en a amené quelques-uns, voilà. Si vous voulez regarder tout à l'heure.
Alors maintenant, c'est pareil, avant, donc on réfléchit, pour savoir, alors, par exemple, les trois petits cochons, nous allons demander les trois petits cochons, alors nous étions une dizaine autour de la table. Alors certaines personnes prennent des personnages Et donc, vous voyez, les petits cochons sont toujours pareils. Donc là, on réfléchit par rapport au texte, texte normal, découpage en séquence, en braille. Et ensuite, donc, il faut qu'on réfléchisse à la matière du petit cochon, toujours le même. Différent, c'est d'où les maisons. Alors, les maisons, ben, vous connaissez l'histoire des trois petits cochons. Donc voilà ce que nous... voilà. Alors, voilà ce que. Alors, bien sûr, comme disait Pascal, Stéphane, il faut qu'on fasse attention. Par exemple, là, il faut, puisqu'il a deux jambes, il faut que l'enfant puisse savoir qu'il y a un petit espace d'un centimètre. Il y a deux bras, donc il faut aussi que
les bras soient collés.
Il ne faut pas que les bras soient collés, il faut. Enfin, c'est tout, voilà. Les petits yeux, enfin, le, voilà.
Alors, depuis, on va avancer parce que je crois qu'on n'a pas trop de temps. Depuis 2013, il y a une vingtaine de livres qui ont été réalisés. Dans les 8 écoles, il y a un enfant malvoyant par école. Donc, ce sont des livres qui tournent énormément. D'ailleurs, les bricoleuses assurent le service après-vente parce que, bien évidemment, il y a des réparations régulières à effectuer. Donc, ce sont des ouvrages qui servent à ces 8 enfants, mais en fait, qui sont des supports formidables pour les autres enfants et pour les enseignants. Les enfants voyants sont toujours très fascinés par ces réalisations et finalement, ça sert vraiment à l'ensemble des enfants. Pour terminer, tout ce travail a été un prétexte pour nous à organiser au moins une fois par an une soirée à la médiathèque qui s'appelle Lire dans le noir, qui est une soirée qui est ouverte à tout public et où on propose des démonstrations de lecture en braille, de synthèse vocale, du matériel spécifique pour les malvoyants, où on présente les réalisations de livres tactiles et où les haut-parleurs proposent au public de participer à une expérience de lecture dans le noir complète, qui est souvent très appréciée et qui fait venir vraiment beaucoup de monde. On en a profité également pour fermer le personnel de la médiathèque à l'accueil des publics malvoyants, avec aussi une expérience dans le noir pour le personnel de la médiathèque. L'association SDV réalise pour nous la signalétique en braille sur tous nos textes lus. Et pour terminer, plutôt une bonne nouvelle, toutes ces actions ont donné une réelle visibilité à l'association. Depuis l'année dernière, la fin de l'année dernière, la municipalité leur a aménagé un très beau local de 300 mètres carrés avec un studio d'enregistrement. J'ai oublié de vous montrer les photos, mais que vous voyez là, un beau studio d'enregistrement et un bel atelier spécifique autour des livres en braille. Voilà, on va les enregistrer. Ouais. Voilà, l'atelier de réalisation livres en braille. Les donneuses de doigts, comme je disais tout à l'heure, voilà, avec les réalisations. C'est des dames, hein, beaucoup. Pour terminer, je voudrais juste dire que ces trois groupes, finalement, qui fonctionnent... Alors, le fait que maintenant, il y a des nouveaux locaux pour l'association fait qu'on les voit un peu moins dans nos murs, mais il y a quand même toujours ces... On le regrette, mais il y a toujours cette synergie qui existe avec la médiathèque. Il y a trois groupes, en fait, les haut-parleurs, les donneurs de voix et les donneuses de doigts. Et tout ça, il y a des inclusions dans ce groupe-là. Dans chaque groupe, il y a du personnel de la médiathèque. Et que finalement, c'est un projet qui, au départ, ne s'adressait qu'à un petit public spécifique, mais qui a des incidences sur l'ensemble du public de la médiathèque, parce que finalement, toute action qu'on mène pour un public handicapé, on sait que ça sert aussi à l'ensemble du public. Et c'est un projet qui touche beaucoup les gens. Vous allez me dire, pour des livres tactiles, c'est un peu facile, mais c'est un projet que les gens ont à cœur. Voilà, ils sont contents de savoir qu'on fait ça, ça leur parle. Voilà, les gens sont très sensibles, le public en général, à ce type de projet. Voilà.
Merci. Je suppose que le travail étroit que vous faites avec les personnes déficientes visuelles a sensibilisé tout le monde. Est-ce que ça a eu un impact sur vos collections, sur l'organisation de la bibliothèque? Est-ce que vous avez été obligé de repenser certaines choses?
Oui, alors un exemple très concret, la première fois qu'on a eu vraiment des échanges avec l'association SDV, il a beaucoup ri en visitant la bibliothèque parce qu'il s'est rendu compte que le fond de livre au caractère était juste derrière un poteau, par exemple. Donc on a eu comme ça des remarques qui nous ont incité à revoir l'aménagement complet de la médiathèque. Aujourd'hui, on a un gros projet de réaménagement et de modernisation complète de l'équipement et on travaille de manière étroite avec l'association SDV pour justement nous permettre d'améliorer l'accessibilité. Et puis on a donc réalisé sur nos boîtiers de CD de textes lus, une signalétique en braille grâce à l'association SDV aussi. Voilà.
et sur les pratiques de votre association, parce que la lecture à voix haute, c'est une vieille tradition à la bibliothèque de Saint-Lô, où c'est un peu votre spécialité. Le fait d'aborder cette lecture particulière, parce que là, vous lisez des ouvrages qui ne sont pas habituellement les ouvrages qu'on peut travailler quand on est lecteur à voix haute, qu'est-ce que ça a changé au niveau des haut-parleurs, au niveau de vos pratiques de lecture ?
Ben, par exemple, pour moi personnellement, qui fait partie aussi des haut-parleurs, on n'a pas du tout, quand on enregistre un livre ou quelque chose comme ça, il faut faire très attention au souffle, à la respiration, ne pas travailler, je ne lis pas plus que 15 ou 20 minutes par jour, ou alors je fais des séquences un petit peu le matin, un peu l'après-midi.
Pour compléter, je dirais que beaucoup de haut-parleurs aimeraient participer au don de voix parce que c'est quelque chose qui les touche beaucoup. Après, c'est, vous imaginez, une activité pour laquelle il faut avoir beaucoup de temps. Enregistrer un livre, c'est plusieurs jours de travail et les haut-parleurs n'ont pas toujours la disponibilité nécessaire. Mais c'est une action qui les tente et beaucoup nous disent « Ah, quand je serai en retraite, j'enregistrerai des livres.
» Est-ce qu'il y a des questions ? Oui.
Oui, Dominique Panchèvre de l'Agence du Livre. Une question pour vous deux. En fait, est-ce qu'il existe des réseaux d'échange, par exemple, ou de collaboration entre les structures comme EDV, par exemple, et je pense à une qui est très connue à Paris, l'association Valentin Huy, bien sûr, où il pourrait y avoir des échanges ou des prêts ou des copies d'enregistrement, par exemple, déjà réalisées par d'autres, qui pourraient augmenter votre fonds et votre offre, finalement.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'avant toute demande d'un enseignant, enfin, au moment de la demande de l'enseignant, l'association EDV fait le tour du réseau pour savoir si le texte est déjà enregistré par d'autres, parce que c'est un travail colossal, et donc soit ça existe dans le commerce et auquel c'est un achat que peut faire la médiathèque, soit ça existe dans d'autres associations, y compris l'association parisienne, et qui peut prêter le document et qui permet aux donneurs de voix d'enregistrer autre chose. C'est pas celui-ci. Donc il y a toujours une recherche préalable pour savoir si le document existe en audio.
Une autre question ? Non ? Ça pourra se faire tout à fait à la fin si vous avez des choses qui vous reviennent. Je vous propose de passer au troisième thème donc, de notre table ronde avec Mathilde Servet de la BPI et Éline Cognard-Bertrand de l'association Mots sur Mesure pour nous parler des permanences d'écrivains publics. Donc, voilà, je vous ai fait bien attention de parler bien dans le micro. Voilà.
On va essayer, il n'y a pas de problème. Alors, on n'a pas de PowerPoint. De toute façon, là, vous verrez ce que va illustrer Éline, c'est comme ça sera quand même très vivant parce qu'il y a des gens très différents qui viennent dans ces permanences d'écrivains publics. C'est vrai que, pour rappel, la BPI, c'est quand même très particulier parce qu'on a un petit peu une bibliothèque hybride hein, à la jonction de la lecture publique et de la BU. 65% de notre public, ce sont des étudiants. On essaye depuis quelque temps d'axer davantage notre projet d'établissement sur la lecture publique. Cela dit, il y a un écueil à contourner qui est quand même de taille, c'est la queue. Parce que régulièrement, on a une queue qui peut s'allonger le dimanche. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu le dimanche au Centre Pompidou. En période d'examen, ça peut durer 3 heures, 4 heures. Voilà, bon, ça, c'est vraiment un moment de pointe. Hein. Certaines périodes dans l'année, il y a des moments où c'est plus fluide. On a même une petite application maintenant qui s'appelle Affluence. C'est un peu comme le bison futé de la BPI. Ça permet de voir à quel moment on peut entrer ou pas plus facilement. Toujours est-il qu'on essaye quand même de diversifier nos publics en dépit de ce cœur de cible que sont les étudiants. Hein, et on essaye de répondre aussi à leurs besoins, mais on essaye qu'il y en ait pour tous les goûts et un petit peu tous les styles, d'autant qu'on a un vivier de publics très large. Hein, on accueille de 4000 à 5000 personnes par jour avec des personnes qui ont des profils extrêmement variés. Hein, ça va donc de ces étudiants à des personnes âgées. On n'a pas les enfants à la famille pour la queue en grande partie, puis parce qu'on n'a pas forcément d'espace adapté, mais on a des personnes qui sont très à la marge, des personnes qui sont en recherche d'emploi, des actifs, des gens qui viennent pour toutes sortes de demandes. Et c'est vrai qu'autre particularité de la BPI, c'est qu'on n'a pas d'ancrage. Hein. Vous pouvez fonctionner beaucoup en réseau avec les associations de quartier, avec le voisinage. On n'est pas du tout dans Saint-Thomas-du-Pavail. Hein. On n'a pas la prairie devant avec les ânes, c'est dommage. Mais en tout cas, donc on fait avec les particularités de cet établissement. Et l'idée, c'est aussi maintenant de partir d'une conception finalement de l'information et du savoir, de l'apprentissage beaucoup plus large, hein, c'est-à-dire de partir du principe que la bibliothèque, c'est un lieu où on va apprendre tout un tas de choses sous différentes formes, par les livres, mais aussi par d'autres biais. Et ces autres biais, ils sont aussi bien sûr humains, parce qu'on n'apprend pas par un seul canal. Et à partir du moment où on a des collections dans la bibliothèque, si on a des collections littéraires, ça nous semble naturel de faire venir un auteur. En tout cas, nous, dans le service savoir pratique, on a des collections plus académiques et à la fois pratiques, comme le droit, l'économie, la gestion, la création d'entreprises, la recherche d'emploi, l'informatique, mais aussi le tourisme, la gastronomie, la santé, la psychiatrie, les sciences de l'ingénieur, et beaucoup d'autres choses. Et donc l'idée, c'est de faire de la médiation autour de tous ces sujets et de donner un éclairage sur l'actualité. Par exemple, concernant les nouvelles technologies, on a fait venir, on fait des choses sur les imprimantes 3D, l'intelligence artificielle, les drones. Et à chaque fois, c'est des gens très divers qui viennent pour ces sujets techniques. Il y a beaucoup d'hommes qu'on ne voit pas d'habitude, par exemple. Dès qu'on peut faire des choses nous-mêmes, on le fait. Par exemple, on fait beaucoup d'ateliers numériques maintenant. Et justement, ça touche des publics très, très variés. Hein. On n'a pas seulement des gens à la marge, mais on a beaucoup d'étudiants aussi, de personnes âgées. C'est le grand atout de la BPI, c'est d'avoir du brassage de public. Quand vous avez d'autres bibliothèques comme Montreuil qui ont des actions très sociales, ils vont par exemple toucher quelquefois des publics vraiment de migrants. Ils font des ateliers de conversation en français ou étrangère. Nous, on les fait aussi. Ce sont des bibliothécaires. Hein. Moi, j'en fais aussi, par exemple. Et dans ces ateliers de français en langue étrangère, on a des gens qui ont entre 20 et 80 ans, de tous les pays du monde, de tous les milieux sociaux. Ça va du serveur péruvien au veilleur de nuit népalais, à la femme d'ambassadeur mexicaine, à la journaliste américaine, toute une vague de jeunes qui viennent d'Espagne, d'Italie, de Grèce, qui cherchent du travail, aux femmes de ménage portugaises, qui sont là depuis plusieurs générations, à des femmes qui travaillent dans les cuisines des restaurants chinois du quartier. Donc il y a un brassage réel en termes social, en termes de mixité intergénérationnelle, et c'est ça qui ressort de ces ateliers, et c'est ça aussi que les gens viennent chercher. Ils nous disent souvent, bah, dans ces ateliers, on a l'impression d'être quelqu'un comme les autres. On n'est pas seulement un chômeur, on n'est pas seulement une personne âgée, on est au même plan que les autres. Il y a une très bonne étude qui a été réalisée par un sociologue qui s'appelle Serge Pogam, que vous connaissez peut-être, Les pauvres en bibliothèque, où les gens disent dans cette étude, hein, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'il faut que je laisse parler Lynn, c'est ça le plus important, mais en tout cas où les gens disent que ça répare le stigmate, la BPI, c'est un lieu qui est neutre, et on y entre très facilement, il n'y a pas de carte, ça ne coûte rien, on est très largement ouvert, et donc à partir du moment où les gens adoptent un comportement à peu près approprié, tout le monde peut rentrer. Et ces ateliers, c'est aussi un moyen de mettre les gens en présence, et c'est ce qu'ils recherchent. Ils nous disent souvent au sortir des ateliers, notamment sur la recherche d'emploi, la plus grosse plus-value, c'est la communauté. À Paris, on a encore moins de communautés comme milieu rural, comme à Saint-Aubin ou comme peut-être au Havre. Les gens, ils sont en manque de liens, et dans les ateliers de français et langues étrangères, ils viennent surtout pour se rencontrer. D'ailleurs, ils se voient en dehors. Donc, il y a des choses que les bibliothécaires font, et il y a des choses qu'on fait en partenariat. Par exemple, avec le CIDJ, on fait des ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, de lettres de motivation, des choses très classiques que vous faites peut-être d'ailleurs dans votre bibliothèque. Mais là, on a décidé que ce n'était pas les bibliothécaires qui le faisaient, mais des spécialistes. On est en train de monter un partenariat avec la Cité des métiers où il y aura des simulations d'entretien d'embauche. Comment valoriser son parcours migratoire de travail quand on a déjà travaillé à l'étranger, par exemple. C'est difficile hein, de faire valoir ça sur un CV. Mais aussi, comment prendre confiance en soi grâce au théâtre, par exemple, dans un entretien d'embauche, pareil. Parce que les gens nous disent, et tout ça, c'est dans vos livres, mais nous, on ne sait pas s'en saisir. Ils ne savent pas faire un CV à partir d'un livre. Ils ne savent pas faire une lettre de motivation à partir d'un livre. D'ailleurs, le CIDJ nous déconseille de leur mettre des livres entre les mains, en tout cas au premier abord. Donc les ateliers, ça va être une mise à l'étrier, et après, ils seront plus autonomes. Et ça s'inscrit dans en complémentarité avec nos collections, même chose pour l'informatique. Et autre demande des usagers, ils venaient tout le temps au bureau d'information, ils nous disaient, moi je viens avec un dossier, je viens avec une lettre, je ne sais pas comment m'y prendre, on a des lieux là-dessus, mais autant vous dire qu'un pavé comme ça, sur les démarches administratives, etc., les gens, ils ne savent pas. Donc il faut partir de ce que sont les gens, ça c'est primordial, et pas leur dire nécessairement comment faire, mais trouver une démarche où ils sont à l'aise, et ils vont effectivement s'approprier les compétences ou le savoir nécessaire. Donc l'idée, suite à ces demandes récurrentes qu'on nous faisait constamment, c'est de faire intervenir des écrivains publics pour qu'il y ait un moment privilégié d'interaction. Là, ce n'est pas des ateliers, mais c'est vraiment un à un, où il y a des échanges. Et vous allez voir que, contrairement à ce qu'on pensait, au départ, on pensait répondre surtout à des besoins effectivement administratifs. Et en fait, la palette s'est élargie et cette offre a suscité une autre demande. Et maintenant, je laisse la parole à Lynn.
Bonjour, je vais essayer de vous expliquer de façon plus claire que je ne saurais le faire par écrit, parce que si je suis écrivain, c'est parce qu'à l'oral, je ne suis pas très bonne. Mais bon, on va quand même essayer. Donc, un écrivain public, c'est quelqu'un qui met en mots par écrit les idées, les pensées des autres.
Nous travaillons pour des entreprises, pour des administrations et pour des particuliers. Et nous réalisons donc des prestations lors de permanences d'écrivains publics où le public qui vient nous trouver est assez passif. Nous écrivons pour lui beaucoup de lettres administratives, beaucoup de dossiers à remplir, beaucoup de choses qu'il est assez démuni parce que ce sont souvent des documents complexes par la quantité d'informations à donner et par l'interprétation qu'il faut qu'il fasse avant de pouvoir y répondre. Et quand nous avons été sollicités pour organiser une permanence d'écrivain public à la BPI, nous avons pensé que nous allions répondre essentiellement aux mêmes besoins. Et là, ce fut une grande surprise. Le public qui est venu nous rencontrer était composé, bien sûr, de gens aussi qui avaient besoin de cette assistance écrite administrative, mais pas seulement. Il faut que je vous explique aussi une chose qui est importante. Ça se passe de la façon suivante. Nous avons donc une permanence par mois, une permanence en journée et quelquefois une permanence de nuit, enfin le soir, de 8h à 22h30. 7h30 à 22h. Et donc une heure avant que nous arrivions, un appel au micro est fait pour signaler notre présence. Donc les gens qui viennent s'inscrire ne sont pas déjà venus avec un ouvrage, enfin une demande bien précise. Ce sont des gens qui vont être interpellés par notre présence, qui souvent ne savent pas très bien ce que nous faisons, mais qui entendent le mot écrivain et qui entendent le mot public. Donc quelque part, c'est un écrivain qui va être à la disposition du public et ils viennent nous rencontrer. Nous avons donc une salle qui est à notre disposition, nous avons un ordinateur, une table, deux chaises et nous avons une imprimante. Et l'imprimante ne nous sert quasiment jamais parce que les gens qui viennent nous rencontrer sont équipés soit leur ordinateur avec à l'intérieur un fichier qui contient ce qu'ils vont nous soumettre comme écrit ou alors un document qu'ils ont manuscrit et qui vont nous faire lire. Ce sont des gens qui sont en attente d'un conseil, d'un accompagnement, d'un avis, qui viennent avec quelque chose dont ils ne sont pas très sûrs, mais dont souvent ils repartent très fiers. Ce sont des gens qui viennent avec des lettres de motivation, bien sûr, beaucoup, qui viennent nous demander notre avis ou de le remettre en forme ou simplement de les aider à le formuler. Des CV aussi qu'il faut peut-être structurer. Il y a aussi des gens qui viennent avec des nouvelles, avec des poèmes, qui viennent avec un carnet de voyage illustré et sur lequel ils nous demandent de pouvoir, de savoir comment faire pour faire une légende qui soit suffisamment riche et attractive pour pouvoir accompagner leurs images. Ce sont des gens qui, il y a pas mal d'étudiants étrangers qui viennent pour nous poser des questions sur la grammaire française. Alors, on a une demi-heure pour étudier chaque cas, pour écouter, pour comprendre et pour répondre. C'est assez court, mais c'est un moment d'échange extrêmement précieux pour eux et pour nous aussi. C'est un moment privilégié où nous leur accordons toute notre écoute et où nous décrispons leur rapport à l'écriture. Et ça, c'est vraiment fondamental. Nous ne nous étions pas rendus compte jusqu'à présent de ce que simplement le fait de pouvoir répondre à quelqu'un dans une situation difficile par rapport à l'écrit, par rapport à la syntaxe, par rapport à l'orthographe, par rapport à tout un tas de choses, nous n'avions pas conscience qu'en fait, il suffisait très simplement de le recevoir avec simplement bienveillance, voilà, pour déclencher une envie d'aller plus loin. Et c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup surpris avec les jeunes. Le public de l'après-midi est souvent composé de lycéens qui sont là en recherche d'informations ou en moment de calme pour pouvoir travailler, qui viennent nous poser des questions sur leur dissertation, sur leurs commentaires de texte, sur leur rapport avec le français et qui nous expliquent qu'ils ont besoin d'écrire. C'est quelque chose de très surprenant parce que dans une société qui ouvre énormément les voies de la communication, dans lesquelles beaucoup écrivent, eh bien, ils ont, je crois, à leur disposition un vocabulaire qui ne leur suffit pas pour exprimer l'essentiel de leur pensée.
et en leur donnant la possibilité de se retrouver seuls avec l'écriture, en leur expliquant que faire des fautes, c'est pas très grave, que pour arriver à mieux écrire, il faut lire un petit peu, et puis peut-être arriver à comprendre qu'un mot peut nous emmener encore beaucoup plus loin que ce qui nous a été donné de comprendre, eh bien, il y en a qui sont revenus nous voir pour nous expliquer que, eh ben, il y avait eu des écrits qu'ils voulaient nous soumettre. Et on a vu en très peu de temps, quelquefois, des choses fantastiques qu'ils ont pu nous produire. Alors, ils écrivent beaucoup de poèmes, beaucoup de nouvelles et choses comme ça. Et c'est peut-être aussi ce qui nous a beaucoup surpris, c'est de voir le nombre de personnes qui écrivent. Mathilde vous a parlé de la diversité du public qui traverse la BPI. Enfin, pas qu'il fait pas que le traverser.
Et,
oui. Et c'est la même diversité de public qui vient nous voir avec des écrits. Ça va de la personne qui est un agent de surface au chef d'entreprise retraité qui a écrit quelque chose. Ça va même très loin parce que un jour où je sortais de la BPI à 10h, c'est 10h ou 10h30, enfin je ne me souviens plus, il faisait nuit, c'était l'hiver, et sur le parvis, je me suis dit que j'étais pas très tranquille pour le traverser et rejoindre mon parking. J'ai donc avisé un vigile pour lui demander s'il voulait bien m'accompagner jusqu'à l'entrée du parking. Alors il a un peu rechigné, je lui ai expliqué que je travaillais à la BPI et en chemin, il m'a demandé ce que je faisais. Quand il a entendu le mot écrivain public, il m'a dit « Oh, ben alors, moi aussi j'écris et j'aimerais bien vous montrer ce que j'écris ». Alors un bodyguard comme ça, je lui ai quand même donné mes coordonnées pour qu'il puisse me confier ses écrits. Et une autre fois, en sortant de la BPI un après-midi où j'avais accompagné une jeune fille d'origine vietnamienne pour travailler pour une lettre de motivation pour ses études. Elle m'a happée sur le parvis pour me dire « Oh, madame, il faut que vous veniez voir, j'ai un ami qui a écrit un scénario ». Et je pense qu'il y a comme ça énormément de gens qui considèrent l'écriture comme quelque chose qu'ils ne peuvent pas s'autoriser à travailler autrement qu'en dilettante, alors qu'en leur ouvrant une porte par notre intermédiaire, en libérant cette écriture, on peut certainement leur permettre d'aller plus loin dans leur recherche d'eux-mêmes. Je voulais peut-être dire d'autres choses, mais je les ai oubliées.
Non, mais c'est vrai que c'est ce que dit Lynn, c'est vraiment intéressant de voir la diversité finalement des profils qui interviennent. Moi, je me rappelle aussi de cet infirmier, là, quelqu'un qui a écrit un témoignage sur le burn-out et qui venait pour chapitrer son ouvrage. Donc ça peut être professionnel, ça peut être pour les loisirs, ça peut être pour écrire une lettre à sa grand-mère, ça peut être pour améliorer son orthographe. Et les gens reviennent, hein, c'est ce que vous disiez, Lynn. C'est vrai que parfois, ils dépassent même. S'il y a une session qui est libre, il reste une heure. On ne fait qu'une demi-heure pour qu'on puisse toucher tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un peu du service sur mesure. Alors malheureusement, pour les tutelles, bien au-dessus, pas pour notre direction nécessairement, mais au-dessus, ce n'est pas des choses qui font du chiffre. Hein. Vous recevez 5 personnes dans une permanence. Mais ça, un service comme ça, ça apporte probablement beaucoup plus que, quelquefois, une exposition qu'on peut traverser rapidement. Et c'est ça qu'il faut. Il faut aussi de l'humain. On fait des grands discours sur la période post-Charlie, sur la démocratisation culturelle, mais ça ne peut passer, à mon sens, que par des actions aussi quelquefois très ciblées, par un véritable accompagnement humain. C'est de l'investissement, mais c'est la seule solution si on veut arriver à des résultats tangibles. Et les gens, ça redonne de la confiance. Ce qu'ils nous disent, c'est que ça leur redonne confiance. Et c'est ça qu'il faut faire, à mon sens.
Très bien, merci. Donc, témoignage, l'écriture comme intermédiation avec la lecture, avec le livre, c'est tout à fait intéressant. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette dernière intervention ? Est-ce que quelqu'un veut... Non, mais, alors, pendant que je vous laisse le temps de réfléchir, j'aurais une question.
Il y a quelqu'un,
il y a quelqu'un tout en haut.
Voilà. Est-ce qu'il y a une formation spéciale, justement, pour faire écrivain de public ? Ça existe dans les facultés ?
Est-ce qu'il y a une formation?
Est-ce que ça s'apprend?
Oui. Eh bien, écoutez, beaucoup d'entre nous, je fais partie du GREC, qui est le groupement des écrivains conseils. Parmi nos membres, beaucoup d'entre nous sont formés sur le tas. Et maintenant, il existe en effet une licence d'écrivain public à la Sorbonne, et qui existe depuis maintenant 2-3 ans et qui connaît vraiment un grand succès.
Une autre question ? J'aurais une question transversale, peut-être, si chacun peut répondre, mais très vite, parce qu'on a déjà épuisé notre temps. Mais c'est, là, on parle vraiment des partenariats entre une bibliothèque et une association aux différents lieux. Si on parlait un tout petit peu d'évaluation, à quel moment on peut considérer qu'un partenariat est réussi ? À quel moment on se dit, tiens, bah ouais, ça marche ? Est-ce que c'est les résultats que ça produit ? Est-ce que c'est la solidité du partenariat, le fait que ça dure ? Est-ce que c'est l'impact sur vos propres pratiques qui va vous permettre de considérer qu'un partenariat, finalement, c'est réussi ? Je ne sais pas qui est-ce qui veut se mouiller. Pascal ?
Je pense que c'est un peu tout. Moi, je disais tout à l'heure, ce partenariat a permis à EDV d'obtenir des locaux conséquents financés par la ville. Ça, pour moi, c'est vrai, une vraie réussite. C'est les articles qu'on voit dans la presse, c'est le monde qui fréquente nos soirées Lire dans le Noir. C'est un tout. Voilà. L'impact chiffré sur les inscriptions à la médiathèque est difficilement mesurable, mais voilà, c'est le fait que les ateliers soient occupés en soirée, c'est le fait que le personnel s'investisse dans les activités. Pour moi, c'est toutes ces données-là qui permettent de le mesurer. Mais encore une fois, c'est très difficile de le chiffrer précisément.
C'est le retour aussi des usagers. Nous, on a beaucoup de retours très, très positifs des usagers. Ils sont reconnaissants d'avoir pu avoir accès. C'est vrai que c'est rare, finalement, d'avoir accès à un service d'écrivain public comme ça. Ils n'ont pas à s'inscrire à l'avance. Ils peuvent venir. C'est dans la bibliothèque, donc c'est plutôt neutre. Ils n'ont pas à se signaler voulant ce service. Ils sont très reconnaissants. Et d'ailleurs, je crois qu'Olivier, elle peut aussi en témoigner. Hein. Les gens, quand ils sortent, ils sont...
Ah oui, souvent, les gens arrivent avec presque la tête basse pour nous parler de leur écrit parce qu'ils ne sont pas très sûrs d'eux. Et ils ressortent, et on le voit physiquement, hein. ils sont contents, ils sont heureux, ils se retournent pour nous faire des coucous derrière la vitre. Enfin, vraiment, on voit qu'on apporte un petit plaisir.
Voilà. Frédéric Blambert ?
Oui, on n'échappera jamais à une évaluation binaire quand on fait une action, c'est bien ou c'est pas bien. Nos statistiques, le chiffre c'est binaire, ça parle, c'est 1, c'est 0. C'est satisfaisant, ça ne l'est pas. Je crois qu'il faut d'emblée se dire que quand on est dans une expérimentation, qu'on est sur des chemins croisés, il faut accepter l'idée aussi dès le départ, d'emblée, et aussi pour nos décideurs, qu'on a aussi le droit à l'erreur, on a le droit de se planter, ça arrive. Mais aussi, on a le droit de persévérer. C'est ce qu'on fait, nous, actuellement. On aurait pu, sur certains lieux, se dire bah, « ça marche pas, on arrête ». Non, à ce moment-là, c'est renoncer à notre engagement. Et il faut surtout pas arrêter. Surtout pas arrêter parce qu'on insiste. Et, évidemment, les résultats en demi-teinte font qu'on se réinterroge et on réadapte. Mais il faut insister encore et encore. Et vous le disiez dans votre question, le rapport au temps est essentiel, bien entendu.
Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, pas de regrets, non. Mais écoutez, on va remercier vraiment tous nos intervenants pour cette table ronde. C'est très intéressant. Je tiens vraiment à remercier Agnès Babois, qui est chargée de mission lecture publique et patrimoine au CRL, parce qu'elle m'a vraiment bien aidé à préparer cette table ronde. Et elle a beaucoup travaillé avec la RL Haute-Normandie pour monter cette journée.